Chapitre 5. Moyens d'améliorer la condition de l'Europe. Mélange. En contemplant un sujet qui embrasse toute la région de l'humanité, il est impossible de limiter nos poursuites dans une seule direction. Elles s'arrêtent sur tous les caractères et sur toutes les conditions qui appartiennent à l'homme et mêlent ensemble l'individu, la nation et le monde. D'une étincelle qui parut en Amérique, il s'est élevé une flamme qu'il est impossible d'éteindre. Sans rien consumer, comme l'ultima ratio regum, elle passe d'une nation à l'autre et conquiert par une opération imperceptible. L'homme se trouve changé et sait à peine comment. Il acquiert la connaissance de ses droits en faisant attention à ses intérêts et s'aperçoit finalement que la force et le pouvoir du despotisme ne consistent que dans la crainte de lui résister, et que, pour être libre, il ne faut que le vouloir. M'étant efforcé dans les chapitres précédents de cet ouvrage d'établir un système de principes comme les bases sur lesquelles les gouvernements doivent être fondés, je vais m'occuper dans celui-ci des moyens de les mettre en pratique. Mais afin d'introduire cette partie du sujet avec plus de convenance et d'efficacité, il sera nécessaire de faire quelques observations préliminaires, déduites de ces principes ou liées avec eux. Quelle que soit la forme ou la constitution d'un gouvernement, elle ne doit avoir d'autre objet que le bien général. Quand, au lieu de cela, elle tend à créer ou à augmenter la misère d'aucune des parties de la société, elle est fondée sur un mauvais système et il faut nécessairement une réforme. Le langage ordinaire a donné à la condition de l'homme deux dénominations, l'état civilisé et l'état de sauvage. Il a accordé à l'un le bonheur et l'abondance, à l'autre la misère et les besoins. Mais quelque séduite que puisse être notre imagination par les descriptions et par les comparaisons, il n'en est pas moins vrai qu'une grande partie du genre humain, dans ce que l'on appelle les pays civilisés, est dans un état de pauvreté et de misère beaucoup au-dessous de celui de l'Indien. Je ne parle pas ici d'un seul pays, mais de tous. Il en est ainsi en Angleterre, il en est ainsi dans toute l'Europe. Cherchons-en la cause. Cette cause ne vient pas d'aucun défaut naturel dans les principes de civilisation, mais de ce qu'on empêche ces principes d'opérer universellement. La conséquence est un système perpétuel de guerre et de dépenses qui épuise le pays et détruit le bonheur général dont la civilisation est susceptible. Tous les gouvernements de l'Europe, la France exceptée, sont fondés non pas sur un principe de civilisation générale, mais précisément sur l'inverse. Quant aux rapports que ces gouvernements ont les uns avec les autres, ils sont dans la même situation que celle des sauvages. Ils se mettent au-dessus des lois de Dieu et des hommes et sont, par leurs principes et par leur conduite réciproque, comme autant d'individus dans l'état de nature. Les habitants de tous les pays, sous l'empire des lois, communiquent aisément ensemble. Mais les gouvernements étant encore dans l'état de sauvage et presque toujours en guerre, pervertissent l'abondance que la vie civilisée produit pour porter la partie non civilisée à un plus haut degré de barbarie. En greffant ainsi la barbarie du gouvernement sur la civilisation intérieure d'un pays, on tire de cette dernière, et principalement des pauvres, une grande portion de ce salaire qui devrait être employé à leur subsistance et à leur consolation. Laissant de côté toute réflexion de morale et de philosophie, c'est un fait bien vrai que plus d'un quart du travail du genre humain est annuellement consommé par ce système barbare. Ce qui a servi à perpétuer ce mal, ce sont les avantages pécuniaires qui reviennent à tous les gouvernements de l'Europe en entretenant cet état de barbarie. Il leur fournit des prétextes pour obtenir du pouvoir et des revenus dont ils n'auraient aucunement besoin si le cercle de la civilisation était complet. Le simple gouvernement civil ou le gouvernement des lois ne fournit aucun prétexte pour demander beaucoup d'impôts. Il opère dans l'intérieur, directement sous les yeux des citoyens, et prévient la possibilité de leur en imposer. Mais lorsque la scène est placée dans les contestations sauvages des gouvernements, il y a un vaste camp pour les prétextes, et le pays, n'étant plus juge, est ouvert à toutes les fraudes qu'il plaît au gouvernement de pratiquer. Il n'y a pas un 30e, pas même un 40e des taxes levées en Angleterre qui soit occasionné par les besoins du gouvernement civil ou qui y soit appliqué. Il n'est pas difficile de voir que tout ce que fait le gouvernement actuel à ce sujet c'est de publier des lois que le pays administre et exécute, à ses dépens, par le moyen des magistrats, de jurys, de sessions d'assises, outre les taxes qu'ils payent. Sous ce point de vue, nous avons deux espèces de gouvernement, le gouvernement civil ou le gouvernement des lois, qui opère dans l'intérieur, et le gouvernement de la cour ou du cabinet, qui agit chez l'étranger, selon le rude plan de la vie non civilisée. L'un qui coûte très peu, et l'autre qui exige des dépenses exorbitantes. Et ces gouvernements sont tellement distincts que si le dernier venait à être englouti par un tremblement de terre et à disparaître entièrement de la surface du globe, le premier ne serait aucunement dérangé. Il continuerait ses opérations parce que l'intérêt général de la nation le demande et qu'il en a tous les moyens. Les révolutions ont donc pour objet un changement dans la condition morale des gouvernements. Et, par le moyen de ce changement, le fardeau des taxes diminuera et la civilisation jouira de cette abondance dont elle est aujourd'hui privée. En contemplant la totalité de ce sujet, je porte mes vues dans le département du commerce. Dans tous mes ouvrages, quand j'ai trouvé une occasion, j'ai toujours été l'avocat du commerce, parce que je suis ami de ses effets. C'est un système pacifique qui tend à réunir les hommes en rendant les nations comme les individus utiles les unes aux autres. Quant à une simple réforme théorique, je ne l'ai jamais prêchée. Le procédé le plus efficace est celui d'améliorer la condition de l'homme par le moyen de ses intérêts, et c'est sur cette base que je me tiens. Si l'on permettait au commerce d'agir dans l'espace immense dont il est susceptible, il extirperait le système de la guerre et produirait une révolution dans l'état non civilisé des gouvernements. L'invention du commerce apparut depuis que ces gouvernements ont commencé, et c'est le plus grand pas vers la civilisation universelle qui ait encore été fait par aucun moyen qui ne découle pas immédiatement de principes moraux. Tout ce qui tend à favoriser la correspondance civile des nations par un échange de bienfaits est un sujet aussi digne de la philosophie que de la politique. Le commerce n'est autre chose que le trafic de deux individus multiplié sur une échelle de nombres. Et par la même règle que la nature voulait la correspondance de deux, elle voulait celle de tous. C'est pour cette raison qu'elle a distribué les matériaux des manufactures et du commerce dans différentes parties éloignées d'une nation et du monde. Et comme on ne saurait se les procurer à si bon compte et aussi commodément par la guerre que par le commerce, elle a rendu le dernier un moyen d'extirper la première. Comme ils sont les deux opposés l'une de l'autre, il s'ensuit que l'état sauvage des gouvernements de l'Europe est nuisible au commerce. Toute espèce de destruction ou d'embarras sert à diminuer la quantité, et il importe fort peu dans quelle partie du monde commercial la réduction commence. Semblable au sang, on ne peut le tirer d'aucune des parties sans diminuer la masse en circulation et tout partage du déficit. Quand une nation n'a plus les moyens d'acheter, le vendeur est également affecté. Si le gouvernement d'Angleterre pouvait détruire le commerce de toutes les autres nations, il ruinerait très sûrement le sien. Il est possible qu'une nation soit porteur du monde entier, mais elle ne saurait en être le marchand. Elle ne peut pas vendre et acheter ses propres marchandises. La faculté d'acheter doit résider hors d'elle. Et c'est pourquoi la prospérité de toute nation commerçante est réglée par la prospérité des autres. Si celles-ci sont pauvres, elles ne sauraient être riches, et sa condition, quelle qu'elle puisse être, est un baromètre de la hauteur du commerce chez les autres nations. Une assertion que la raison ne niera pas, c'est que les principes du commerce et son opération universelle peuvent être entendus sans en comprendre la pratique. Et c'est sur ce principe seulement que j'argumente sur ce sujet. C'est une chose dans un comptoir, et dans le monde, c'en est une autre. Quant à son opération, il faut nécessairement la regarder comme une chose réciproque. Il n'y a que la moitié de ses pouvoirs qui résident dans la nation, et le tout est aussi effectivement détruit par la destruction de la moitié qui est hors de la nation que si l'on avait détruit celle qui est dedans, car elles ne peuvent agir l'une sans l'autre. Quand, pendant la dernière guerre comme dans les précédentes, le commerce d'Angleterre diminua, ce fut parce que la masse générale en était diminuée partout. Il augmente aujourd'hui parce que le commerce fleurit chez toutes les nations. Si l'Angleterre importe et exporte plus aujourd'hui que dans aucun autre temps, les nations avec lesquelles elles commercent doivent nécessairement faire la même chose. Ces importations sont leurs expressions et vice-versa. Il ne peut jamais arriver qu'une nation fleurisse seule dans le commerce. Elle ne saurait que le partager. Et sa destruction, quelque part qu'elle arrive, doit nécessairement affecter toutes les nations. Lors donc que les gouvernements sont en guerre, ils attaquent le dépôt commun du commerce, et la conséquence est la même que s'ils avaient attaqué chacun le sien. L'augmentation actuelle du commerce ne doit pas être attribuée aux ministres ou à aucun système politique, mais à ces opérations naturelles en conséquence de la paix. Les marchés réguliers avaient été détruits, les canaux du commerce rompus, la grande route de la mer infestée de brigands de toutes les nations et l'attention du monde tournée vers d'autres objets. Ces interruptions ont cessé et la paix a remis dans l'ordre naturel l'état dérangé des choses. Il est digne de remarque que toutes les nations disent que la balance du commerce est en leur faveur. C'est pourquoi il faut qu'il y ait quelque chose d'irrégulier dans les idées ordinaires sur ce sujet. Le fait est cependant vrai selon ce que l'on appelle une balance. Et c'est de cette cause que le commerce est universellement soutenu. Chaque nation y trouve son avantage, autrement elle en abandonnerait la pratique. Mais la méprise gît dans la manière de compter et en attribuant ce que l'on appelle profit à une fausse cause. M. Pitt s'est quelquefois amusé à montrer ce qu'il appelait une balance de commerce des registres de la douane. Cette manière de calculer ne donne aucune règle qui soit juste, mais en offre une qui est fausse. D'abord, toute cargaison qui sort de la douane paraît sur ces registres comme exportation, et conséquemment, par la balance de la douane, les pertes à la mer et par les faillites chez l'étranger sont toutes portées comme bénéfices parce qu'elles paraissent comme des exportations. Secondement, l'importation par le commerce de contrebande ne paraît pas sur les livres de la douane pour faire face aux exportations. On ne saurait donc prouver une balance avantageuse par ces documents, et en examinant l'opération naturelle du commerce, on trouvera que l'idée est fausse et que si elle était vraie, elle ne tarderait pas à devenir injurieuse. Le grand soutien du commerce gît en ce que la balance des profits soit égale chez toutes les nations. Deux négociants de différents pays, en commerçant ensemble, deviendront tous les deux riches et chacun a la balance en sa faveur. Conséquemment, ce n'est point de leurs propres fonds qu'ils s'enrichissent et il en est de même des nations où ils résident. Le fait est que chaque nation doit s'enrichir par ses propres moyens et qu'elle augmente ses richesses par quelque chose qu'elle se procure d'une autre en échange. Si un négociant en Angleterre envoie un article de manufacture anglaise chez l'étranger qui lui coûte un chelin chez lui et qu'il importe une chose qui se vend deux, il a la balance d'un chelin en sa faveur. Mais ce chelin n'est pas gagné de la nation étrangère ou du négociant étranger, car celui-ci gagne aussi la même chose sur l'article qu'il reçoit et aucun n'a une balance de profit sur l'autre. La valeur première de deux articles dans leur pays était de deux chelins, mais en changeant de place, ils acquièrent une nouvelle idée de valeur égale au double de celle qu'ils avaient d'abord, et cette augmentation de valeur est également divisée. Il n'y a pas d'autre balance sur le commerce étranger que sur le commerce intérieur. Les marchands de Londres et de Newcastle commercent sur les mêmes principes que s'ils résidaient dans différentes nations et font leur balance de la même manière. Cependant, Londres ne s'enrichit pas par Newcastle, non plus que Newcastle par Londres. Mais le charbon, marchandise de Newcastle, a plus de valeur à Londres, de même que les marchandises de Londres à Newcastle. Quoique le principe de tout commerce soit le même, le commerce intérieur, sous un point de vue national, est le plus avantageux parce que tous les avantages des deux côtés restent dans la nation, au lieu que dans le commerce étranger, elle ne profite que d'une moitié. Le plus désavantageux de tous les commerces est celui qui a quelques connexions avec une domination étrangère. Il peut être profitable pour quelques individus, mais c'est une perte pour la nation. La dépense nécessaire pour maintenir une domination absorbe plus que les bénéfices du commerce. Elle n'augmente pas la quantité générale qu'il y en a dans le monde, mais elle tend à la diminuer. Et comme il y en aurait une plus grande masse sans domination, ce que l'on pourrait obtenir sans cette dépense vaudrait beaucoup mieux qu'une plus grande quantité avec cette dépense. Mais il est impossible d'accaparer le commerce par la domination. C'est pourquoi cette mesure est d'autant plus fausse. Il ne saurait exister dans des canaux étroits, et il rompt nécessairement ses digues par des moyens réguliers ou irréguliers, qui défont toute tentative pour le resserrer. Et si l'on réussissait, ce serait encore pis. La France, depuis la Révolution, a été plus qu'indifférente aux possessions étrangères. Et les autres nations le seront également quand elles auront examiné le sujet du commerce. À la dépense des dominations, il faut ajouter celle d'une marine, et quand le montant de ces deux dépenses aura été soustrait des bénéfices du commerce, il paraîtra que ce que l'on appelle la balance du commerce, en supposant qu'elle existe, ne tourne pas à l'avantage de la nation, mais qu'elle est absorbée par le gouvernement. L'idée d'entretenir une marine pour la protection du commerce est illusoire. C'est mettre des moyens de destruction en place des moyens de protection. Le commerce n'a besoin d'autre protection que de l'intérêt réciproque que chaque nation trouve à le soutenir. C'est un magasin commun. Il existe par une balance d'avantages pour tout le monde. Et la seule interruption qu'il rencontre vient de l'état barbare des gouvernements actuels qu'il est de l'intérêt commun de réformer. Je vais maintenant passer à d'autres objets. Comme il est nécessaire de comprendre l'Angleterre dans la perspective d'une réforme générale, il est à propos de faire des recherches sur les défauts de son gouvernement. Ce n'est que lorsque chaque nation aura réformé le sien que le tout sera amélioré et que l'on pourra jouir de tous les avantages d'une réforme. Des réformes partielles ne peuvent produire que des avantages partiels. La France et l'Angleterre sont les deux seuls pays de l'Europe où l'on pouvait commencer une réforme avec succès. L'une, gardée par l'océan, et l'autre, par son immense force intérieure, pouvait défier la malice du despotisme étranger. Mais il en est des révolutions comme du commerce. Les avantages augmentent lorsqu'elles deviennent générales, et doublent pour l'une ou pour l'autre ceux que chacune aurait reçus si elle avait existé seule. Comme il se présente maintenant un nouveau système aux yeux de l'univers, les cours de l'Europe conspirent pour le contrecarrer. Elles négocient des alliances tout à fait contraires à leur ancienne politique, et les cours vont faire cause commune contre les intérêts communs des hommes. Cette combinaison parcourt toute l'Europe et offre une cause toute nouvelle qui ne permet aucun calcul sur les circonstances antérieures. Tandis que le despotisme faisait la guerre au despotisme, l'homme n'était pas intéressé à la querelle. Mais dans une cause qui réunit le soldat avec le citoyen et les nations avec les nations, le despotisme des cours, quoiqu'il sente le danger et qu'il médite une vengeance, a peur de frapper. L'histoire n'offre point, depuis l'origine du monde, une question d'une plus grande importance que la présente. Il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel parti sera dans le ministère ou non, si les Whigs ou les Tories, les grands ou les petits, prévaudront, mais si l'homme héritera ses droits et si la civilisation universelle aura lieu, s'il jouira du fruit de ses travaux ou s'ils seront consommés par la perversité des gouvernements, si la déprédation sera bannie des cours et la misère de la terre. Quand nous voyons, dans les pays que l'on appelle civilisés, les vieillards aller à la maison de force et les jeunes gens aux galères, il faut qu'il y ait quelque chose de mauvais dans le système du gouvernement. Il paraîtrait par l'apparence extérieure de ces pays que tout est heureux, mais il y existe une masse de misère, cachée aux yeux des observateurs ordinaires, qui n'a guère d'autre chance que de périr dans la pauvreté ou l'infamie. Son entrée dans le monde est marquée du présage de sa destinée, et jusqu'à ce qu'on y ait remédié, il est bien inutile d'infliger des punitions. Le gouvernement civil ne consiste pas en exécution, mais il doit faire des provisions pour l'instruction de la jeunesse et le soutien de la vieillesse, de manière à préserver, autant qu'il est possible, l'une du crime, l'autre du désespoir. Au lieu de cela, les ressources d'un pays sont prodiguées à des rois, à des cours, à des mercenaires, à des imposteurs et à des catins. Les pauvres eux-mêmes, malgré tous leurs besoins, sont forcés de supporter la fraude qui les opprime. Pourquoi arrive-t-il qu'il n'y a presque personne d'exécuté que les pauvres? Cela prouve, entre autres choses, que leur condition est misérable. Élevés sans mœurs et jetés dans le monde sans espoir, ils sont les victimes marquées du vice et de la barbarie légale. Les millions que l'on prodigue inutilement pour les gouvernements sont plus que suffisants pour réformer ces maux et pour améliorer la condition de chaque individu d'une nation qui n'est pas dans l'enceinte d'une cour. J'espère prouver cela dans les progrès de cet ouvrage. Il est de la nature de la compassion de s'associer avec le malheur. En entreprenant ce sujet, je ne cherche pas de récompense. Je ne crains pas non plus les conséquences. Fort de cette intégrité mâle qui dédaigne de triompher ou de céder, je veux être l'avocat des droits de l'homme. Il est avantageux pour moi d'avoir fait l'apprentissage de la vie. Je connais le prix des instructions morales et j'ai vu le danger du contraire. À peu près à l'âge de 16 ans, encore neuf et aventurier, et échauffé par le faux héroïsme d'un maître qui avait servi sur un vaisseau de guerre, je commençais à être l'instrument de ma propre fortune et m'engageais à bord du corsaire Le Terrible, capitaine Death ou capitaine La Mort. Les remontrances morales et affectionnées d'un bon père, que sa religion devait déjà me faire regarder comme perdu, le père de M. Payne était Quaker, m'empêchèrent heureusement de persister dans cette aventure. Mais cette impression, quelque effet qu'elle eut dans le temps, commença à s'effacer, et je m'engageai après cela dans le corsaire le roi de Prusse, capitaine Mendes, et fis la course avec lui. Cependant, en dépit d'un pareil commencement, et quoique j'aie eu tous les inconvénients de la jeunesse contre moi, j'ai la vanité de dire qu'avec une persévérance qu'aucune difficulté ne put abattre, et un désintéressement qui commanda le respect, j'ai non seulement contribué à élever un nouvel empire dans le monde, fondé sur un nouveau système de gouvernement, mais que je suis arrivé à un degré d'éminence dans la littérature politique, où il est plus difficile de réussir et d'exceller que dans aucune autre branche, que l'aristocratie, avec tous ses moyens, n'a pas été capable d'atteindre ou de rivaliser. Connaissant mon propre cœur, et me sentant supérieur à toutes les escarmouches des partis, à la haine d'adversaires intéressés ou trompés, je ne réponds pas à la fausseté et aux invectives, mais je vais examiner les défauts du gouvernement anglais. Note. La politique et l'intérêt personnel ont été si uniformément liés ensemble que le monde, après avoir été si longtemps trompé, a droit de soupçonner les caractères publics. Mais quant à moi, je suis parfaitement tranquille sur ce point. Lorsque je commençais à tourner mes pensées vers les affaires publiques, il y a près de 17 ans, je ne le fis pas par des motifs d'intérêt. Et ma conduite depuis ce moment-là, jusqu'à ce jour, est une preuve de ce que j'avance. Je trouvais une occasion où je crus pouvoir faire du bien, et je suivis exactement ce que mon cœur me dictait. Je ne lus aucun livre, et je n'étudiais pas les opinions des autres, je pensais pour moi-même. Voici l'affaire. Pendant la suspension des anciens gouvernements en Amérique, tant avant qu'après le commencement des hostilités, je fus frappé de l'ordre et du décorum avec lesquels tout était conduit. L'idée me vint que tout le gouvernement qui était nécessaire était peu de choses au-delà de ce que la société peut faire, et que la monarchie et l'aristocratie étaient des fraudes et des impositions. Sur ces principes, je publiai le pamphlet « Common Sense » ou « Le sens commun ». Le succès qu'il éprouva surpassa tout ce que l'on avait vu depuis l'invention de l'imprimerie. J'abandonnai le droit d'imprimer à chaque État de l'Union, et on n'en demanda pas moins de 100 000 exemplaires. Je continuai le sujet de la même manière, sous le titre de la crise, jusqu'à l'établissement complet de la Révolution. Après la déclaration d'indépendance, le Congrès, à mon insu, me nomma unanimement secrétaire du département des affaires étrangères. J'en fus content, parce que cela me fournit une occasion d'examiner les talents des cours étrangères, et de voir leur manière de faire les affaires. Mais un malentendu ayant eu lieu entre le Congrès et moi, au sujet d'un de leurs commissaires, alors en Europe, M. Silas Deane, je résignai ma commission et refusai en même temps les offres pécuniaires qui me furent faites par les ministres de France et d'Espagne, M. Gérard et Don Juan Miralles. J'avais alors tellement gagné la confiance des Américains, et mon indépendance était si visible, que j'obtins une réputation dans la littérature politique peut-être supérieure à celle d'aucun individu dans aucun pays du monde. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que je la conservai jusqu'à la fin de la guerre, et que j'en jouis encore aujourd'hui. Comme ce n'était pas ma propre personne que j'avais en vue, je commençais dans la révolution, et heureusement avec la disposition de ne me laisser émouvoir ni par les louanges, ni par la censure, ni par l'amitié, ni par la calomnie, ni d'être diverti de mon objet par aucune altercation personnelle. Et l'homme qui n'est pas capable de cela n'est pas propre à avoir un caractère public. Lorsque la guerre fut terminée, j'allais de Philadelphie à Bordertown, sur la rive orientale de la Delaware, où j'ai une petite habitation. Le congrès était alors à Princeton, à 15 000 de là. Le général Washington avait établi son quartier à Rock Hill, dans le voisinage du congrès, afin de résigner sa commission, l'objet pour lequel il l'avait accepté étant accompli, et de se retirer dans ses foyers. Pendant qu'il était occupé de cette affaire, il m'écrivit la lettre suivante. À Rock Hill, le 10 septembre 1783. J'ai appris depuis mon arrivée ici que vous étiez à Bordertown. Je ne sais si c'est pour votre tranquillité ou par économie, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, ou pour toutes les deux, ou quel que soit votre motif, si vous voulez venir ici et partager ma fortune, je serai charmé de vous y voir. Votre présence pourra rappeler au Congrès les services que vous avez rendus à ce pays, et s'il est en mon pouvoir d'y influer, disposez librement de moi. Vous pouvez compter sur les efforts les plus grands de la part d'un homme qui a la plus haute opinion de l'importance de vos ouvrages et qui se dit avec beaucoup de plaisir, votre sincère ami, G. Washington. Pendant la guerre, vers la fin de l'année 1780, je formais le projet de passer en Angleterre. Je communiquai mon intention au général Greene, qui était alors à Philadelphie, dans sa marche vers les provinces méridionales. Le général Washington étant alors trop éloigné pour pouvoir directement communiquer avec lui. Je m'étais fortement mis dans la tête que si je pouvais passer en Angleterre incognito et y être en sûreté jusqu'à ce que j'eusse pu publier un pamphlet, je pourrais dessiller les yeux des habitants sur la folie et la stupidité de son gouvernement. Je voyais que les différents partis du Parlement s'étaient combattus autant qu'ils le pouvaient et qu'ils étaient incapables de faire aucune nouvelle impression l'un sur l'autre. Le général Greene entra tout à fait dans mes vues. Mais l'affaire d'Arnaud et d'André étant arrivée peu de temps après, il changea d'avis, et ayant de grandes appréhensions pour ma sûreté, il m'écrivit d'une manière fort pressante d'Annapolis, dans le Maryland, d'abandonner ce projet, ce que je fis avec quelque répugnance. Peu après, j'accompagnai le colonel Lawrence, fils de M. Lawrence, alors prisonnier à la Tour de Londres, en France, pour les affaires du Congrès. Nous débarquâmes à Lorient. Et tandis que j'étais encore là, le colonel étant allé en avant, il arriva une circonstance qui fit renaître mon premier dessein. Un paquebot anglais de Falmouth à New York, avec les dépêches du gouvernement à bord, fut amené à Lorient. Il n'est pas extraordinaire qu'un paquebot soit pris, mais on aura peine à croire que les dépêches ayant été prises aussi, parce qu'elles pendent toujours à la fenêtre de la chambre du capitaine, dans un sac avec des boulets, de manière à pouvoir être jeté à la mer en un instant. Le fait est cependant tel que je le raconte, car j'eus les dépêches entre les mains, et je les lus. Cette capture, selon ce que l'on m'a raconté, réussit de la manière suivante. Le capitaine du corsaire, la madame, qui parlait bien anglais, en abordant le paquebot, se fit passer pour le capitaine d'une frégate anglaise et invita le capitaine du paquebot à venir à bord. Après quoi il envoya quelques-uns de ses gens par derrière, qui s'assurèrent de la malle. Mais quelles qu'aient été les circonstances de la prise, je parle avec certitude des dépêches du gouvernement. Elles furent envoyées à Paris, au comte de Vergennes, et quand le colonel Lawrence et moi retournâmes en Amérique, nous portâmes les originaux au Congrès. Ces dépêches me firent voir plus que jamais la stupidité du cabinet d'Angleterre, et je repris ma première résolution. Mais le colonel Lawrence parut si peu disposé à retourner seul, principalement parce qu'entre autres choses, nous étions chargés de plus de 200 000 livres sterling en espèces, 4 800 000 livres tournois, que je me rendis à ses instances et renonçai finalement à mon plan. Mais je suis persuadé que si j'avais pu l'exécuter, il n'aurait pas été sans succès. Fin de la note.